Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Nathalie Amar.
Soyez les bienvenus dans cette émission 1er août 1960, cela fera 60 ans. Demain, Uber Maga proclame à Porto Novo l'indépendance de la République du Dahomey qui allait devenir le Bénin. D'autres pays, Niger, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, allaient aussi prendre leur envol en ce début du mois d'août des indépendances. Mais c'est donc le Bénin qui ouvre le bal, tout comme 30 ans plus tard, avec sa conférence nationale souveraine, il allait poser le premier, les bases du multipartisme en Afrique. Alors on va retracer ensemble ces 6 décennies d'histoire qui ont été aussi évidemment marquées par la dictature, l'adhésion à l'idéologie marxiste. Vous nous dites aussi, vous pouvez nous appeler au 33 9 693 693 70 ou nous écrire sur la page Facebook. Vous nous dites aussi donc quels sont les défis qui se posent d'après vous au Bénin aujourd'hui quand on parle de démocratie, de gouvernance, de développement. À quoi aspirez-vous pour les décennies à venir? 3 invités sont avec moi virtuellement, mais ils sont là quand même. Bonjour Luc Nyakadja. Luc Nyakadja, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Alors on va saluer donc Luc Nyakadja, avec qui la liaison devrait se faire rapidement, qui a été ministre de l'Environnement sous la présidence de Mathieu Kérékou au début des années 2000, qui préside le think tank GPS Dev. Joël Ataï-Guédégbé, expert en gouvernance, membre de l'ONG Nouvelle Éthique, également en ligne avec vous. Et je salue Mathias Soumpé, politologue, administrateur du programme gouvernance politique à la fondation Osiwa Open Society pour l'Afrique de l'Ouest. Bonjour Mathias Soumpé.
Bonjour.
Vous êtes en duplex de Dakar, dans les locaux de notre rédaction en Mandinkan, que l'on remercie évidemment au passage. Mathias Soumpé, c'est avec vous que je vais commencer dans le discours qui marque cette accession à l'indépendance. Hubert Maga appelle à l'unité, à la fraternité, mais ce qui suit cette date historique, les premiers mois, les premières années, en fait c'est plutôt une longue série de coups d'État. Pourquoi ça démarre ainsi ?
Absolument. Je pense que dès l'entame, n'est-ce pas, de l'indépendance du Bénin, on s'est rendu compte que la classe politique a été divisée littéralement en 3, donc en faisant simple, et les 3 ont occupé des zones géographiques, et je vais mettre en griffe des groupes ethniques séparés. Et donc cet appel à la fraternité, à l'unité, n'a pas réellement fonctionné du point de vue politique. Et donc ça a conduit à une sorte de jeu du chat et de la souris, mm-hmm, entraînant au moins 6 coups d'État. Entre 1960 et 1972, le Bénin a connu 6 coups d'État réussis et au moins 6 tentatives échouées de coups d'État.
C'est presque tous les 2 ans, en fait, hein, à cette époque-là, dans cette première partie qui suit l'indépendance. Pas une législature ne finit son mandat. C'est un héritage de la colonisation, évidemment.
Non, je pense que ce n'est pas nécessairement un héritage de la colonisation. Je pense que ça a été pour nous la première expérience, n'est-ce pas, d'organisation politique en régime de liberté. Et je pense qu'on a rencontré les premières difficultés, à savoir comment est-ce que les acteurs politiques, les leaders, pouvaient s'asseoir et s'entendre ce qui est important pour le pays. Mmh. Et donc je pense qu'on a rencontré beaucoup de difficultés à donc gérer par nous-mêmes cette première phase de notre indépendance.
Le Bénin de cette époque-là, Mathias Soumpé, on l'appelait l'enfant malade de l'Afrique, en raison de ce que vous venez nous dire, hein, de cette instabilité, de cette concurrence aussi pour le pouvoir. Est-ce que d'après vous, si le Bénin n'avait pas été cet enfant là, il ne serait pas devenu dans les années 90 un modèle pour la démocratie sur le continent?
C'est difficile à le dire comme s'il y avait une relation téléologique entre ce qui s'est passé en 60 et ce qui se passe depuis 90. Mais ce que je peux dire, c'est que ceux qui ont écrit la constitution du Bénin de 1990 avaient vraiment à cœur d'éviter que l'instabilité qu'on a connue en 60 se reproduisent. Et donc, il y a des mesures qui ont été prises, il y a des mécanismes qui ont été prévus dans la Constitution pour éviter justement, en partie tout au moins, que le Bénin connaisse encore ce genre d'instabilité politique. Donc, je peux dire que ça nous a servi de leçon pour éviter que cela se reproduise.
Ça a effectivement marqué certainement la mémoire collective et la mémoire des politiques, hein, ces démarrages tumultueux après l'acquisition de l'indépendance. Alors cette série de coups d'État s'achève en 1972, hein, quand le commandant Mathieu Kérékou prend le pouvoir et engage le pays sur la voie de la révolution marxiste et de ses dérives. Alors on va revenir, hein, d'abord sur la figure de Mathieu Kérékou, mais d'abord je voudrais qu'on accueille un premier auditeur. Ernest est en ligne avec nous. Bonjour Ernest.
Oui, bonjour Nathalie.
Merci d'être avec nous. Vous êtes, vous, Ernest, un enfant de l'indépendance, hein, on peut dire, puisque vous êtes né en 61. Okay. Vous avez le souvenir du jour où le Dahomey est devenu le Bénin, précisément?
Si, j'ai le souvenir. En ce moment, j'étais très jeune collégien que j'étais. J'étais à Ouida, la ville historique. En 75, 30 novembre 75, c'est un jour férié, c'est un jour de fête. Et le discours de changement du nom Dahomey en Bénin, et on l'a suivi en direct. C'était un discours radio diffusé.
Et vous dites que ça a été important pour la constitution, pour l'unification de ce pays?
Si, parce que moi, mon papa cheminot qu'il soit, on a resté un peu dans le Nord, oui, et puis et nos concitoyens du Nord estiment qu'ils ne sont pas des Dahoméens, oui, et pourtant que pour moi, Dahomey devenu Bénin, pour moi, c'est unificateur.
Mmh, c'est unificateur, alors que vous étiez tout jeune, vous aviez 14 ans. Quel bilan, en un mot, tirez-vous de ces 60 années d'indépendance, Ernest?
60 années d'indépendance, il y a eu beaucoup de progrès, mais le discours de fraternité du président Manga n'est pas suivi, parce que même jusqu'à aujourd'hui, à voir ce qui se passe sur le plan politique dans le pays, vraiment, la fraternité dont a parlé le président Manga n'est pas toujours observé. Et pourtant, aux acteurs politiques de retroussent les manches afin que cette fraternité puisse s'observer. Il y a eu beaucoup d'avancées.
Mais il reste encore beaucoup à faire et on aura évidemment l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie de cette émission. Ernest, merci à vous de nous avoir appelé de Cotonou. J'accueille à présent, je crois que la ligne est établie cette fois, Luc Nyakadja. Bonjour.
Et bonjour.
Et merci d'être en ligne. Vous présidez le think tank GPS Dev. C'est un acronyme anglais, hein, pour dire gouvernance et politique de développement durable. Vous avez été le ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme sous la présidence de Mathieu Kérékou, deuxième période. Hein. Une division, hein, en deux temps sur ce personnage central qui est au pouvoir, donc au moment où le Dahomey devient le Bénin. Quel souvenir gardez-vous de cette période?
J'ai gardé le souvenir de Mathieu Kérékou, en tout cas d'un homme assez surprenant. Il faut savoir que c'est celui qui a mis un terme au rôle de l'armée en tant que variable d'ajustement politique dans notre pays. Et c'est aussi celui qui a volontairement, en tout cas face à la crise socio-économique des années de la fin des années 80, a choisi, avant l'injonction de la boule, si je dois dire, a choisi d'aller à la conférence nationale. Et comment je l'ai servi?
Alors l'injonction de la boule dont vous parlez, c'est le discours de François Mitterrand, hein, qui en 90, à l'été 90, conditionne l'aide française au multipartisme. Mathieu Kérékou précède cet appel-là. Il a senti le vent de l'histoire.
Il a senti en fait la volonté des Béninois de changer face au modèle politique et économique qui était celui de la révolution. Et face à cela, il a décidé en 89 d'organiser en février 90 la conférence nationale comme modalité, mécanisme de transition démocratique qui a donné lieu au vent des conférences nationales en Afrique, alors que le discours de la boule a eu lieu en juin 90, donc 5-6 mois plus tard.
C'est-à-dire qu'il a été à la fois celui qui, durant la dictature, pourfend les libertés publiques, et en même temps celui qui les promeut dans un second temps de l'histoire politique du Bénin.
Oui, Mathieu Kérékou 2 et 3 a été celui-là qui a facilité cette transition démocratique. Et sous lui, on peut observer en effet que la société civile a pris son ampleur, La liberté de la presse, la liberté individuelle était respectée, mais le contre-coup, c'est que on a eu une inflation de partis politiques, et ça a fait que le libéralisme économique et la démocratie n'ont pas porté les fruits attendus, à savoir ceux du progrès ou des impacts socio-économiques pour la population.
Luc Niakadja, vous restez avec nous. On accueille à présent Mathieu qui est à Porto-Novo. Bonjour Mathieu.
Bonjour Nathalie.
Alors vous avez des souvenirs de l'époque révolutionnaire, hein, les années 70, vous étiez à l'école et comme toute votre génération, Mathieu, vous avez subi ce qu'on peut appeler vulgairement du bourrage de crâne, hein, sous la période de la dictature, on vous faisait répéter bêtement les slogans à la gloire de la révolution.
Oui, ces slogans-là, nous les répétions à l'époque, à l'école, c'était le fruit de la formation idéologique et de la forte politisation de la société béninoise. Je me rappelle bien que ces slogans étaient répétés dans la plupart des langues nationales pour créer l'unité nationale. D'ailleurs, la création du parti unique était le symbole de cette unité recherchée pour la révolution près. Pour la révolution en avant, et trop coco, politique, Isasato, Migbi, donc toutes les langues. Je pense que
Vous les avez gardés en tête, ces slogans, des années plus tard, ça a été vraiment marquant pour vous, cette période-là.
Oui, ça a été vraiment marquant, cette période, parce que lorsqu'on a grandi aujourd'hui, on a dépassé 40 ans, et on se rappelle de ces slogans, on constate qu'il y avait une volonté de faire en sorte que les Béninois, qu'ils soient du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, se considèrent comme appartenant à une nation ayant la même cause. Même si dans la réalité, en 90, tout ça a été remis en cause, mais on comprend bien aujourd'hui que l'esprit qui était derrière cette formation idéologique n'était pas mauvais.
Et vous êtes aujourd'hui enseignant et vous dites qu'il est important d'enseigner cette période révolutionnaire et celle d'avant pour les écoliers béninois aujourd'hui. Bonjour Joël Ataï-Guédégbé.
Oui, bonjour Nathalie, bonjour à nos amis.
On vous accueille avec plaisir, vous êtes expert en gouvernance, membre de l'ONG Nouvelle Éthique. Cette période de la répression sous le régime de Mathieu Kérékou, elle a laissé des traces. Contre qui d'abord s'exerce-t-elle cette répression et comment?
Dans un premier temps, contre certains militaires, vus comme des concurrents, puisque l'armée fut tumultueuse jusqu'en 72. Donc il y eut ce temps de mise au pas des caciques de l'armée et par même épuration de la dite armée de ces artisans putschistes avérés. Ensuite, ce furent des civils, et pour ne pas dire la droite, par opposition à ce qui se voulait, la gauche, autour des militaires. En réalité, dès 1972, avec le discours programme élaboré autour des militaires, par l'ensemble des cadres civils et des syndicats, voire de la société civile, une fracture s'est instaurée, s'est dessinée, mais à travers laquelle le président Mathieu Kérékou a tout le temps essayé de manœuvrer. Et même si l'aile gauche a fini par prendre le dessus, pour ne pas dire l'aile léniniste, carrément, dans la mesure où il y a eu d'autres subdivisions au niveau du mouvement de gauche, au point qu'on a eu même un parti communiste dit du Laomé, le PCD, d'obédience albanaise, et pour vous dire jusqu'à quel point la variété des oppositions était forte et étendue. Donc jusqu'en 77, cela a culminé par une espèce de... Oui, par une agression extérieure, disons organisée par des Béninois de la diaspora, donc exilés, déjà condamné à mort pour certains, et avec le soutien de la France, du Gabon, du Maroc, et à travers un débarquement mercenaire conduit par Bob Denard, de sinistre mémoire. Donc voilà un peu comment les oppositions se sont galvanisées, et quoique le PCD, le Parti communiste, ait pu maintenir la pression, et ou sinon a pu la renouveler surtout à partir de 85, et jusqu'à donner les coups de butoir au Parti marxiste-léniniste, de gauche qu'il était en 89 avec la convocation de la conférence nationale.
Mathias Oumpé, on va revenir vers vous dans un instant. Je voudrais simplement qu'on donne la parole à Ambroise qui est à Cotonou et qui nous disait d'abord bonjour Ambroise.
Oui, bonjour Nathalie.
On évoquait la conférence nationale à l'instant. Vous nous disiez, vous, avoir vécu ce moment avec beaucoup d'émotions. Racontez-nous.
Oui, en fait, la conférence, il faut avouer que c'était un événement très, très important qui a marqué, en fait, tous les Béninois. Même ceux qui ne l'ont pas vécu, on leur en a tellement parlé que c'est devenu pour eux un événement majeur. Parce qu'en fait, il faut rappeler un peu vraiment d'où on était parti. Parce que vous avez parlé tout à l'heure de l'instabilité politique qui a prévalu pendant longtemps. Le général Mathieu Kérékou a pu stabiliser un peu cette situation politique-là. Mais dans les années 89, c'est une situation économique et sociale vraiment instable et prête à embraser tout le pays qui se présentait parce qu'il y avait l'incapacité du gouvernement à faire face au paiement des salaires. Les fonctionnaires avaient des arrêts de salaire qui s'étendaient sur plusieurs mois. Donc c'était la misère, vraiment avait atteint un niveau où vraiment elle était complètement indescriptible. Vous comprenez.
Et vous dites que cette conférence nationale, justement dans ce contexte extrêmement compliqué économiquement, personne ne croyait que ça réussirait. En tout cas pas vous, si je comprends bien.
Oui, en fait, bon, c'était en fait à tout moment, tout pouvait en fait chambouler. Parce que l'idée, c'est quoi? Les collaborateurs proches d'abord de Mathieu Kérékou ne voulaient pas vraiment le voir partir. Ça, il faut le souligner. Et les menaces venaient vraiment de l'armée, puisque c'est eux qui étaient au pouvoir, en fait, vous voyez. Mm-hmm. De l'autre côté, les civils qui voulaient un changement. Donc, tout le monde avait peur. Et c'est là, justement, que, bon, on a félicité le général Mathieu Kérékou qui, au finish, a accepté les résultats qui sont issus de cette conférence nationale. Il a dit, j'accepte. Il a dit, la conférence est souveraine. Et je me souviens, lorsque le général disait que la conférence est souveraine, je crois que tous les Béninois ont applaudi. Tout le monde a dit ouf, parce que c'était le mot magique qui a délivré tout le monde, parce qu'à tout moment, comme je l'ai dit, la chose pouvait vraiment devenir vraiment ce qu'on n'espérait pas. Et si cette conférence ratait, ben, on rentrait carrément dans une situation où le Bénin a fait la guerre civile. En tout cas, on ne sait pas ce que ça allait donner, mais c'était une situation vraiment un peu délicate que le Bénin a vécu. Et c'est pour cela aujourd'hui que tous les Béninois respectent cette conférence-là. Tous les Béninois ont mémorisé en fait les phrases essentielles, ont mémorisé les conclusions de cette conférence. Vous voyez, depuis lors, l'armée n'est plus jamais sortie des casernes. Ça montre quand même que ça a été un ancrage vraiment très important pour tous les Béninois. Et aujourd'hui, quand on parlait de conférence à un Béninois, conférence des forces vives de la nation, c'est un événement majeur.
Merci Ambroise. Mathieu Kérékou, c'est effectivement l'événement fondateur du Bénin contemporain, on va dire cette date de 1990, et pas seulement pour le pays, y compris à l'extérieur de ses frontières. On n'a pas beaucoup de temps malheureusement avant la pause pour le journal, mais il faut en dire un mot. Mathias Oumpé.
Oui, d'accord. Donc vous avez raison, parce que une fois que le Bénin a organisé, et je vais dire réussi, sa conférence nationale, beaucoup d'autres pays, aussi bien dans la sous-région qu'en dehors de l'Afrique de l'Ouest, ont tenté, n'est-ce pas, de faire la même chose. Avec des fortunes diverses, mais je dois dire que je ne connais pas de pays qui ait connu la réussite comme le Bénin, où de façon pacifique, les citoyens se sont retrouvés pour décider du changement de cap politique pour le pays et que ça ne conduise pas à des impasses ou à des conflits par la suite.
Mais c'est donc vrai que ça a conduit cette conférence à une alternance en 1991. Mathieu Kérékou s'est effacé du pouvoir, a laissé la place à Nicéphore Forceglo. C'était pas si fréquent à cette époque-là sur le continent.
Absolument, absolument. Et donc ce n'était pas seulement qu'il a accepté que les décisions de la conférence soient souveraines, mais une fois, il a joué le jeu pour que la transition aboutisse à des élections qui l'éloignent du pouvoir. Et donc ça, il faut le saluer.
Alors, le temps passe très vite. On n'a pas le temps, malheureusement, de prendre Achille, qui nous disait on ne peut pas parler de démocratie sans parler de Nicéphore Soglo. Rachad Akalavi également nous dit que l'indépendance n'a pas de sens aujourd'hui, 60 ans après, si elle n'est pas aussi monétaire. On va y revenir après le journal. On verra si cette ouverture politique que l'on évoquait à l'instant s'est traduite concrètement pour la société béninoise, si elle a profité, entre guillemets, au peuple béninois économiquement, démocratiquement. On se retrouve dans 10 minutes après la dernière édition d'Afrique Matin.